Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonjour, bonsoir, vous écoutez Jerry Cracher sur vos ondes, sur la radio Syllab. Ce soir, vous entendrez Cécile à la technique, et accompagnée de trois super nanas. Bonsoir Sandrine, bonsoir Ingrid, bonsoir Clara, tout en cœur.
Salut.
Bonsoir.
Et on a encore du beau monde à vous présenter, parce que vraiment on est nombreux et nombreuses ce soir. On a les membres de Honoré, de l'imminente ordre siphonique. Bonsoir Sam, bonsoir Alexandre.
Bonjour.
Bonsoir.
Est-ce que, avant de commencer notre sémillante émission, vous nous diriez quelques mots sur votre association ? Vous faites quoi ?
Bah écoutez, nous, ce n'est l'association étudiante de jeux ludiques à Rennes 2. Donc on fait du jeu vidéo, du jeu de plateau, du jeu de cartes, mais avant tout, du jeu de rôle.
C'est vraiment le départ, le point névralgique de votre activité.
Exactement, mais on essaye de d'équilibrer tout ça pour satisfaire le plus de monde possible.
On est ravis de vous avoir avec nous pour notre émission consacrée à discuter de jeux de rôle et de littérature. Mais avant, c'est l'heure d'écouter un flash info qui nous a été livré par Agathe.
Dante, dans le viseur des éditeurs néerlandais, la semaine dernière, la traductrice Lise Laversen venait de présenter sa traduction de l'Enfer de Dante pour un jeune public. Elle a à cette occasion révélé qu'un passage du texte avait été supprimé, celui où l'on voit Mahomet brûler dans les flammes de l'enfer. Ce passage a été jugé trop polémique dans le contexte actuel, un choix qui fait débat dans le monde littéraire. La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse a dévoilé jeudi dans un communiqué leur mécontentement face à la nouvelle composition du conseil d'administration du Centre national du livre. Parmi les 11 désignés par la ministre Roselyne Bachelot, aucun auteur jeunesse. La Charte avait pourtant proposé une candidature. Mercredi dernier, Aurélien Degrotte, bouquiniste de 19 ans, a fait part de sa détresse sur Twitter. Depuis novembre, le chiffre d'affaires du Nordiste est en baisse. « J'ai 16€ sur mon compte et je n'ai pas encore payé mes charges », écrit-il sur le réseau social. Il a aussitôt reçu énormément de soutien et des milliers de commandes. Le premier numéro vient de sortir, la revue Pays est un MOOC de 160 pages consacré au territoire français. L'initiative vient de Manon Bougain, journaliste pigiste bretonne. Le numéro de lancement est dédié à Saint-Malo et ses alentours, enquête, interview ou infographie. Pour vous procurer ce livre, il faudra débourser 29€.
Merci pour cette nouvelle toute fraîche, Agathe. Et mes amis, en ce jour où je me tiens devant vous, enfin devant mon micro, mon visage arbore un air triste et grave. Camarades, il est l'heure pour moi de faire mon mea culpa. On va parler dans cette émission de Stéphane Mallarmé, de Jean Genette.
No, God!
Alors on va faire une toute petite pause et lire le début d'un article de Jean Genette.
No, God, please, no, no!
On va lire ce que raconte en fait Jean Genette.
No!
Je suis absolument désolée, en cette émission du 24 mars, d'avoir confondu Jean Genette et Gérard Genette. Alors, je vais rétablir les faits en gage de réparation. Notre dernière émission, j'ai confondu Jean Genette avec Insolté, auteur du XXe siècle où sa vie et sa mise en scène théâtrale y ont laissé de lui une image d'un vagabond associé à les mystiques. Guère revendiqué, l'auteur des théâtrales bonnes, du romanesque Notre-Dame des Fleurs et du poétique Condamné à mort, a introduit dans ses écrits de nombreux personnages queer. Pour en savoir plus, allez découvrir l'Instagram de Mediaasio Piapia, qui a partagé plusieurs portraits d'écrivains gays français. Toujours est-il que J. Genet ne pourrait, ne devrait se confondre avec celle de G. Genette, Gérard avec deux T. Car c'est bien Gérard et non Jean que nous avons lu la semaine passée. Et Gérard Genette, né le 7 juin 1930, 20 ans après notre cher petit Jean, est décédé il n'y a pas si longtemps, car c'était en 2018, ne saurait être victime d'une erreur aussi terrible. Gégé, Gégène, qui aura rédigé les figures 1, 2, et ainsi de suite jusqu'à la 5e et dernière, mais aussi beaucoup d'autres ouvrages de théorie littéraire, qui aura fait de lui une figure incontournable dans l'avancée des études formelles de littérature et un représentant de la nouvelle critique des années 60, aux côtés d'un certain Roro, Roland Barthes, qui lui n'a pas de pseudo-homonyme avec lequel on pourrait le confondre. Voilà. Pour terminer le résumé des réjouissances passées, je vous rappelle que nous avions fait une émission absolument géniale, malgré quelques erreurs qui, j'espère, sont maintenant oubliées, avec Eugénie Bidet des éditions Dystopia, qui venait de sortir aux éditions, dans ses éditions la collection Jidéri, une édition consacrée aux jeux de rôle, où on avait pu en fait discuter avec les autrices KF et Melville de leurs ouvrages respectifs, La Clé des Nuages et Bois dormant, Vivre sous les ronces. N'hésitez pas à retrouver cette émission au podcast. Et si on retrouve ce soir ici à J'ai craché sur vos ondes, c'est pour continuer d'écouter la fin de ces entretiens et aussi pouvoir en discuter avec nos invités qui sont des praticiens de jeux de rôle plus que nous ne le sommes. Et tout de suite, je laisse la parole à Clara.
Alors tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Cette semaine, on continue à s'évader un peu à travers les jeux de rôle. On a abordé différentes thématiques lors de la dernière émission, mais cette fois-ci, je vais vous parler de la question de la désacralisation et de l'appropriation de la littérature grâce aux jeux de rôle. Alors que ce soit de la poésie, de l'invention ou une forme de lâcher-prise narratif, c'est un peu tout ça à la fois que permet le jeu de rôle en général. Je vous laisse avec cette idée et pour que vous puissiez voir un peu mieux de quoi on va parler, voici un petit extrait d'une interview menée par Cécile sur ce sujet.
C'est rare dans la vie de tous les jours qu'on puisse faire de la poésie avec quelqu'un d'autre et que ce soit fun, enfin je sais pas comment dire. C'est l'avantage d'avoir un jeu, c'est que ça permet de désacraliser beaucoup le rapport qu'on pourrait avoir. Moi je suis pas du tout une lectrice de poésie, je suis une lectrice plutôt de littérature de l'imaginaire, de science-fiction, fantasy, SF. Le jeu de rôle, et ce jeu-là en particulier, me permet d'approcher des choses que je n'ose pas forcément aller toucher en littérature, quoi.
En faisant du coup quelques recherches, je suis tombée sur un article de Camille David qui justement a fait un super article pour parler un petit peu des liens et de en quoi le jeu d'erreur est un objet de littérature. Et enfin, je trouve que ce que tu dis justement sur la désacralisation de la poésie, on est en plein dedans en fait. Ce côté, on se retrouve à se réapproprier des choses.
Totalement. Elle utilise notamment une notion, je crois que c'est elle qui l'a posée, elle parle d'intercréativité. Et c'est une notion qui est assez fondamentale pour moi, pour ma pratique de joueuse, en fait. Il y a vraiment quelque chose de... On crée ensemble. Et on ne se dit pas qu'on est en train de faire de la création, on ne se dit pas qu'on est en train de faire de la littérature, on est en train de jouer à un jeu. Ça rend plein de choses possibles en fait. Ça rend plein de choses fun quand on les sort un peu du registre un peu grandiloquent de la littérature.
C'est rare dans la vie de pouvoir faire de la poésie avec quelqu'un d'autre. C'est une jolie phrase pleine de vérité et ça nous propose une petite mise en bouche du sujet. Alors justement, je vais profiter du fait qu'on soit nombreux aujourd'hui pour vous demander un peu à chaud comme ça, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui vient d'être dit ?
Alors ce qu'on vient d'entendre du coup, c'est une joueuse de quoi si pas ?
Donc c'est Eugénie Bidet qui a dirigé la collection Jidéri et D'accord. qui pratique et qui est aussi l'autrice du blog Je ne suis pas MJ mais.
C'est intéressant déjà d'avoir ce point de vue de la part d'un joueur aussi. Parce que justement, comme il a dit, on n'est pas forcément compte, on ne se rend pas forcément compte concret. Après, à voir aussi est-ce qu'un joueur joue à l'intérieur, mais est-ce qu'il crée aussi des opportunités pour le MJ, du coup, est-ce que c'est un match de répondants, c'est une question à se poser aussi, je pense. Pas forcément évident, parce qu'on pourrait dire par exemple que c'est un maître du jeu qui va du coup immerger dans un monde des joueurs, et du coup c'est lui qui va créer du coup l'ambiance et les autres vont réagir, donc pas forcément une sorte de collaboration. Mais après ça dépend du type de jeu de rôle qu'on fait, mais se poser la question de est-ce que les joueurs influencent ce que va créer le MJ et inversement. C'est aussi une bonne question.
Je rajouterais même, puisque l'Antiphonique a une activité dans un collège, et on nous a proposé de faire découvrir la littérature à des enfants via le jeu de rôle. Donc ça va, tout va avec cette question, puisque les enfants, pour leur donner envie de lire, passent par le jeu, et je pense l'une des façons la plus agréable pour eux. Et lorsqu'on fait du jeu de rôle avec eux, petit à petit, semaine après semaine, on découvre que les enfants s'approprient en fait l'histoire. Et vu qu'ils sont acteurs de l'histoire et non plus spectateurs lorsqu'ils lisent, ça fait que leur éloquence augmente et leur façon de voir les choses et de totalement développé. Et c'est après de nombreuses heures de jeu qu'on leur dit, mais en fait, il y a un livre. Il y a un livre qui parle de ce jeu qu'on vient de pratiquer. Et ils font, c'est vrai, je vais aller voir ça. Et c'est disponible à chaque fois au CDI, on fait en sorte que ça arrive au CDI, et ils vont aller, du coup, lire ce livre, super. Ou voir le film, pour se dire, c'était super, mais j'ai mieux fait que le héros dans le livre.
Et vous auriez par exemple un exemple à citer d'un ouvrage que vous avez permis de faire découvrir à des collégiens?
Moi je fais ça sur Artemis Fowl. Donc c'est un roman jeunesse d'un génie qui a à peu près leur âge en plus, du coup qui va découvrir un monde de fées sous terre qui ont une technologie high-tech, etc.
Je suis vraiment soufflée que ça soit plus efficace de faire découvrir via le plaisir et le jeu un livre de 300 pages plutôt que, je sais pas moi, juste les obliger quoi.
C'est comme j'ai fait le crime de l'Orient Express, leur faire lire Agatha Christie comme ça à des enfants, ils vont rejeter obligatoirement parce que c'est pas leur univers.
Mais c'est quand, un truc de vieux.
Voilà, c'est un truc de vieux. Agatha Christie, bah, ça, pareil, ça fait vieux. Mais quand on leur lance directement dans l'aventure et qu'ils ont leur propre personnage, ils réagissent avec d'autres personnages, on fait des voix pour leur donner vraiment l'immersion. Et que au beau milieu de l'histoire, ils font. En fait, c'est un jeu d'enquête, d'accord. Et il y a un meurtre, d'accord. Comment on fait? Et c'est là qu'on leur dit à la fin. Ouais. C'est écrit par quelqu'un et allez voir ça.
Ah, très bien. C'est un peu le principe aussi des murder parties en dehors du jeu de rôle, on va dire, mais qui permettent aussi à des gens de prendre possession dans une ville ou d'un quartier et découvrir des enquêtes. Exactement. Donc là, évidemment, vous permettez de traverser la littérature via le jeu de rôle. C'est un beau challenge.
Et on peut, du coup, voir plusieurs littératures. Le fantastique, le contemporain.
Le policier, voilà.
Tout ça. Par exemple, on a fait The Witcher, qui est totalement médiéval fantastique. Et on essaye de changer à chaque fois l'univers. Et on regarde quel est en fait l'univers qui leur touche le plus. Et pour exemple, pour mon groupe, les années 20, c'est tout à fait ce qu'ils aiment, et l'enquête, c'est tout à fait ce qu'ils aiment.
Ouais, c'est une approche complètement différente de la littérature par le jeu. Ça ouvre des portes aussi. L'article dont on a parlé pendant l'interview, donc celui de Camille David, il parle de la notion d'intercréativité, et c'est comme ce que disait Alexandre. Il y a un meneur de jeu, donc il y a une forme de règle un petit peu dans le jeu, mais qui permet de la création en fait, et c'est la création collective en fait, tout le monde interagit. Et c'est un peu plus la littérature orale pour les jeux de rôle quand on est en train de jouer entre nous et on n'a pas l'impression de faire de la littérature en fait.
Moi j'ai une question à poser là-dessus, c'est intéressant de se dire que c'est de l'intercréalité, je pense vraiment que c'est une question à se poser, hein, bien sûr, mais c'est un peu, par exemple, je prends un exemple pour que ça soit plus clair, mais on parle des jeux, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un jeu vidéo à choix, un jeu vidéo où on va prendre, en fait, on a une liste de choix, on prend des choix, ça va influencer sur l'histoire, etc., ou on prend pour la littérature les livres dont vous êtes le héros, etc. En soi, vu qu'il y a un choix qui est pris de la part du joueur, il va, du coup, agir sur l'histoire, etc. Mais est-ce que c'est toujours de l'intercréativité, intercréativité, sachant que potentiellement le jeu l'a permis, etc., et qu'il va s'adapter, du coup, et il va faire vivre, certes, une autre œuvre, mais c'est toujours une œuvre qui avait été à l'avance prévue. Souvent, le MJ, ce qu'il doit faire, c'est prévoir la plupart, en tout cas, des cas, comment dire, que va faire le joueur. Donc là, c'est ça que ça pose la question. Effectivement, du coup, en fonction du joueur en face, ça va jamais être la même œuvre, mais vu que les choix ont peut-être ou non été prévus, est-ce que ça reste de l'intercréativité ou est-ce que c'est comment dire, un joueur qui profite d'une œuvre de quelqu'un d'autre?
Ouais, c'est plus une impression d'avoir la liberté totale alors que finalement ça a été un peu prévu à l'avance, quoi.
Ça arrive souvent, c'est ça. Enfin, ça dépend, parce que ça dépend aussi des types de
après,
de maîtres du jeu.
Après, est-ce qu'on dit que la chose est différente parce que le contenu est différent ou est-ce que, parce que dans le jeu de rôle, il y a quand même un domaine assez important qui est l'interprétation, la performance des joueurs et des joueuses. Bien et sûr. Ça aussi, ça aide à ajouter de la singularité. Et je pense que c'est en ça que Camille David pointait le doigt sur l'intercréativité.
Et même s'il y a une fin dans la littérature, même s'il y a la propre fin de l'auteur, le maître du jeu n'est pas obligé de suivre cette fin. Selon les joueurs, selon ce qu'ils veulent faire, on peut modifier toute une fin. Et c'est là qu'à la fin, il se dit, mais en fait, j'écris mon histoire. Je connais l'univers du livre, mais j'écris ma propre histoire. Et c'est ce qui les touche plus, puisque là, ils sont vraiment appropriés à l'œuvre.
Alors justement, en parlant de créer sa propre histoire en interprétant une œuvre, je suis tombée sur un article de Fanny Barnabé, qui est actuellement doctorante, mais qui a fait un master en langue et littérature française et romane, et qui s'est intéressée à la fanfiction, aux pratiques des fans, et qui parlait de, donc je cite, la ludicisation des pratiques d'écriture. Et donc justement, il y avait toute une dimension sur les jeux de rôle aussi, et sur les fanfictions un peu mises en parallèle, sur le fait que justement, les personnes se permettent de prendre une œuvre qui existe déjà, pour réinterpréter l'univers et créer quelque chose de nouveau à partir d'une œuvre qui existe déjà. Et donc, il se réapproprie l'écriture. Et donc, justement, dans l'article, il parlait du fait qu'on n'a pas vraiment l'impression d'être des écrivains ou des auteurs, parce qu'on réinterprète quelque chose, alors qu'en fait, c'est de l'écriture quand même. Et justement, qu'est-ce que vous en pensez du fait que, justement, dans le jeu de rôle, on réécrit un peu les choses à partir de la base qu'on nous donne ?
S'il y en a une.
S'il y en a une, effectivement.
Parce qu'il y a beaucoup de jeux de rôle aussi, en tout cas dans notre association, qui se font aussi, par exemple, sur des supports que les joueurs ont écrits, enfin que les maîtres du jeu ont écrit eux-mêmes. Et du coup, j'ai oublié le début de la question.
Est-ce que vous, ce rapprochement avec les pratiques de fanfiction, ça vous parle en tant que pratiquant de jeux de rôle ?
Ouais, c'est une bonne raison de la réécriture. Ah, il faut que je réfléchisse, vas-y, réponds.
oui, puisque il y a plein d'univers qu'on reprend, puisque on a vu les œuvres, on les a lues, on les a regardées en film, en série, et on s'est dit, ça me plaît pas cette fin, ça me plaît pas ce héros, je vais essayer de faire quelque chose qui me plaît à moi, ou je voudrais aller plus loin que j'adore l'univers, mais je voudrais aller plus loin. C'est lorsqu'on voit ce qu'a fait George Lucas avec Star Wars. Il y a tout un univers développé, mais les fans, ils sont tellement accrochés à cette œuvre qu'ils voudraient aller plus loin. C'est pour ça qu'il y a l'univers étendu et que les gens accrochent à cet univers étendu, comme les fans d'Harry Potter. Ils sont tellement accrochés à cette œuvre qu'ils voudraient encore aller encore plus loin et donc créer de nouveaux personnages, de nouvelles aventures. Et ils écrivent quelque chose, ils inventent quelque chose. Et si ça, c'est... du coup, ils déposent ça sur Internet et si les gens adorent, bah là, ils constatent qu'ils ont vraiment écrit quelque chose, que leur œuvre, même si c'est pas le propre univers, qu'ils ont quand même inventé quelque chose. Et quand l'œuvre, et quand du coup l'auteur valide ses écrits, c'est encore meilleur.
Ah bah oui, ça doit être juste trop bon ça. D'avoir l'imprimatur de l'auteur ou de l'autrice.
Oui et non, j'imagine que ça dépend de l'auteur. Genre les personnes qui font des fanfictions pour vraiment qu'il y ait une vraie présence queer dans Harry Potter. Oui, je pense pas que J.K. Rowling va les applaudir à deux mains. Je pense qu'elle va plutôt faire de la récupération en vrai. Ou pareil pour les personnages racisés. Enfin, genre J.K. qui tweet « J'ai jamais dit que Hermione était blanche. » Oui, enfin, on a vu qu'il t'a validé dans le casting, donc c'est bon, arrête de mentir. Genre la vente dans les épisodes 1 et 2, quand c'était un second rôle qui parlait pas, elle était noire, pas de problème. Par contre, dès qu'elle a une histoire avec Ron, là, par contre, faut caster une Astérix blanche. Merci bien.
Après, ouais, ça dépend aussi de l'auteur. Hein. Si ça. L'auteur apprécie d'avoir ça. Mais il y a des auteurs, ils écrivent leur univers. Et quand on voit toutes les œuvres qui sont sorties derrière et qu'il y a des auteurs qui apprécient tellement ça, de voir que leur œuvre plaît à beaucoup de personnes. Et ils sont encore plus heureux, en fait. Est-ce qu'ils ont créé quelque chose qu'ils voulaient tout simplement partager, au départ.
Et puis générer des pratiques d'écriture chez les jeunes, je pense aussi que c'est quelque chose qui doit être assez porteur. En tout cas, la fanfiction, ça fait souvent débat sur les réseaux sociaux, notamment de est-ce que des petits adolescents ont le droit de s'approprier des œuvres. Ça rappelle un autre combat, un combat qu'on pourrait appeler la culture légitime versus la culture populaire. Et justement, je crois que j'ai un petit truc à vous faire écouter à ce propos.
Moi, il y a une distinction qui me gêne beaucoup et à laquelle j'essaie de réfléchir, qu'on fait en général dans la vie, qui est celle entre la culture légitime et en général la culture populaire. Les univers rôlistes sont très 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 largement associés à la culture populaire, que la clé des nuages n'en avait pas forcément besoin, mais elle se place dans un cadre qui ressemble énormément à la fantasy. Les cultures populaires, les cultures geeks, elles ont beaucoup nourri mon imaginaire et elles ont une place assez chère. Et à l'inverse, ce que je te disais tout à l'heure sur la difficulté que j'avais à me connecter à la poésie quand j'ai commencé à en lire, c'est totalement une difficulté d'accès à une culture dite légitime. Ce qui fait qu'on lit Mallarmé, c'est qu'il y a des institutions qui l'ont mis en avant, il y a des grands critiques qui ont dit des grandes choses dessus, et il fait partie de ces fameux hommes de lettres, personnalités importantes dont on se souvient, avec une dose d'arbitraire là-dedans, quoi. On est dans une phase où, par pas mal d'axes différents, le jeu de rôle se légitimise petit à petit, que ce soit par l'éducatif, par l'art, ce qui est un peu ma direction, quoi, c'est-à-dire assumer le jeu de rôle comme une forme d'art, et ainsi de suite. La partie culture légitime est presque absente, c'est-à-dire que le jeu de rôle n'est pas institué, il n'y a pas de prof de jeu de rôle, il n'y a pas l'idée d'un patrimoine ou d'un matrimoine de jeu de rôle qu'on conserverait comme ça à un niveau institutionnel. Il y a des classiques, mais il n'y a pas d'institution, ce qui n'est pas plus mal. Et en soi, moi j'aimerais pas que la légitimisation du jeu de rôle se passe par reproduire la même fracture entre culture populaire et culture légitime. La Clé des Nuages a un petit côté grand écart. D'un côté, tu vois, tout ce dont on a parlé d'art, d'esthétique, d'interprétation, de poésie, ça nous place beaucoup plus du côté de la culture légitime. Et d'un autre côté, je veux pas perdre non plus les mystères magiques et les magiciens et les dragons et tout ça. J'aimerais bien pouvoir faire se rencontrer deux mondes comme ça, quoi. Que l'on puisse utiliser les moyens de la poésie pour parler de magie, et que l'on puisse ressaisir l'art, en fait. L'art est un gros mot, il y a beaucoup de gens qui sont assez opposés à l'idée que le jeu de rôle serait un art, parce qu'il y a un côté très prétentieux, on a l'impression de faire un cas immense de quelque chose qui est juste une bonne vieille partie entre potes. Et je pense qu'une de mes intentions, une de mes envies autour de la Clé des Nuages et tout ça, c'est que les gens se saisissent du droit à faire de l'art.
Alors, je vous voyais hocher de la tête en écoutant KF. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Absolument tout, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui sont dites sur ces deux petites minutes.
Globalement, personnellement, je suis plutôt d'accord. Enfin, oui, en tout cas, le combat de faire valoir le jeu de rôle en tant qu'art, c'est un truc que j'ai toujours soutenu. D'abord, j'essayais de faire le combat du jeu vidéo, ce qui n'est pas déjà toujours facile, surtout que personnellement, je suis en filière cinéma, alors il faut travailler. mais c'est oui, et pour moi, en fait, même au-delà de par exemple que le jeu de rôle puisse être une désacralisation de la littérature, moi j'aurais plus tendance à dire que le jeu de rôle ça va être une extension ou plutôt comment dire un art qui est né de la littérature, comme par exemple le cinéma aurait pu naître de la photographie.
Et j'ai trouvé très juste également que la légitimation du jeu de rôle, elle peut passer par l'art, elle peut passer par le cinéma, elle peut passer par beaucoup de choses, puisque dans le jeu de rôle on peut faire ce qu'on souhaite en fait dedans. Si on veut faire de l'art, si on veut faire de la poésie, si on veut faire de l'écriture, si on veut faire du cinéma, c'est fait pour ça. Les joueurs, si d'un coup ils veulent chanter à tue-tête, écrire une chanson, écrire un album dans le JDR, c'est fait pour ça, ils ont le droit, puisque c'est eux qui sont le héros du JDR. Et c'est le maître du jeu qui va juste s'adapter à dire « mon joueur, il veut ça, je lui donne ça ». Et c'est comme ça qu'il s'amuse, puisque le maître du jeu est là pour faire vivre une expérience. Et si le joueur est réceptif avec le MJ, il pourra créer tout un truc où il va inventer des nombreuses choses qu'il va reproduire encore plus tard. Parce que le joueur est peut-être destiné à lui aussi devenir MJ plus tard, et donc créer de nouvelles choses.
Il y a une seconde chose qu'elle a évoquée, et moi qui m'intéressait beaucoup, c'était le sujet de l'archivage en fait, de ces livres de jeux de rôle, à faire à travers peut-être du coup la culture populaire, enfin le fait d'archiver toute la culture que ça représente, et que ça soit pas comment dire institutionnalisé dans un certain sens. C'est vrai que le jeu de rôle a ce côté effectivement qui est extrêmement influencé par la culture populaire, et qui est même fondé par la culture populaire, parce que souvent même dans les parties etc, on voit très 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 rapidement quelque chose, si je un joueur va me dire, vas-y, je vais faire la même action qu'un tel, un tel. Je prends par exemple les enfants à Rosa Parks qui sont, moi ce que je veux, c'est les sables de Zorro. Moi ce que je veux faire, c'est exactement l'attaque de celui-ci dans ce manga-là. Ils jouent et ils veulent que ce qu'ils jouent représente aussi leur culture à eux. Et c'est vraiment intéressant, mais je ne sais pas si, par exemple, le jeu de rôle, ça pourrait être, je sais pas, par exemple, à la star du cinéma qui récemment a été institutionnalisé. Enfin, quand je dis récemment, c'est dans les années 80 où on va avoir du coup les premières études en cinéma, les enseignements, etc.
À l'échelle de la littérature, c'est un peu récent, quoi. À l'échelle de la littérature, c'est un peu plus récent.
C'est ça, exactement. À l'échelle de la littérature, c'est plus récent. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, je me vois très mal, mais en tout cas, enfin, voire pas du tout, voir à quoi ça pourrait ressembler, des études en jeu de rôle, même juste un historien, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait quelques recherches sur le début du jeu de rôle, etc. Tout le monde est d'accord dessus. Tout le monde est d'accord, ça commence par Gygax qui va créer la première édition de Donjons et Dragons, etc.
Alors, faux, moi, dans mon super résumé que j'ai fait la semaine passée, ça commençait par des gars qui faisaient des petites stratégies de guerre par correspondance, genre la bataille navale version Première Guerre.
Voilà, on peut retrouver plein de choses, etc. Et il n'y a personne qui se bat, hein, etc. C'est un tel qui a inventé le jeu de rôle, c'est un tel qui a inventé le jeu de rôle. Enfin, je ne vois pas trop ces batailles pour l'instant. Ce qui, s'il y avait eu des études de cinéma, par exemple, des études de jeu de rôle, serait sûrement déjà plus le cas.
Bah là, c'est vrai qu'on est plus sur de la croisée, par exemple, de sociologues qui vont regarder des pratiques, ou alors on va être sur des littéraires qui se posent la question de qu'est-ce qui se passe quand on écrit, joue, lit du jeu de rôle. Ou encore bah, un petit peu les game studios aussi qui ont pas mal nourri, parce que jeux vidéo et JDR c'est quand même des cultures assez liées, donc c'est pas encore un corpus unique, mais ça commence un peu à se constituer.
Ah bien sûr, il y a vraiment un regain ces dernières années pour le jeu de rôle, le jeu vidéo et le jeu de société aussi.
Mais ce que nous expliquait KF, je crois pas l'avoir gardé au montage, mais ce que KF nous expliquait c'était que en fait cet intérêt ça datait du moment où on a pas trop considérer qu'est-ce que font les auteurs, etc. Mais qu'est-ce qui se passe du côté des lecteurs ? Qu'est-ce qui se passe du côté des gens qui reçoivent les textes ? Et c'est à partir du moment où il y a eu les théoriciens de la réception qui se sont mis en place qu'on a commencé à prendre en compte beaucoup plus d'objets culturels, en fait.
Je reprends aussi c'est une chose qu'elle a dite. C'est bah, par exemple d'archivage ou professeur de JDR. On le dit pas, en fait, professeur du JDR. On dit juste, c'est une personne qui vient voir d'autres MJ, qui fait « je voudrais être MJ ». Et nous, on transmet notre vision du maître du jeu. Et c'est pour ça qu'on voit d'innombrables systèmes de jeu, de livres de JDR pour apprendre comment on peut faire maître du jeu, des systèmes de jeu qui passent par le dé, qui passent par des cartes, qui passent par même des bougies. On n'est pas des professeurs de maître du jeu. On transmet ce qu'on a appris, ce qu'on a vécu, par passion, on pourrait dire. Et c'est la personne qui va lire les livres, qui va écouter nos paroles, qui va se dire, ça me plaît, je le reprends, je modifie des choses, j'en crée quelque chose de nouveau, puis je vais le retransmettre plus tard.
Est-ce que ça, c'est pas juste l'art en général, ça ?
finalement, c'est l'art.
C'est ça.
Ça me rappelle un truc, je crois qu'on appelle ça des ateliers d'écriture, donc ouais, c'est vrai que ça ressemble.
J'en ai fait faire un la semaine dernière.
Et bah écoutez, je pense que ça est le moment de se faire une petite pause musicale. On va écouter un morceau qui nous a été en partie proposé par nos chers invités. On va écouter Spirits of the Wild d'Adrian Van Zickler.
Thank you.
Spirits of the Wild d'Adrian Van Sinkler. Vous êtes sur Syllab et vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes. Une émission spéciale jeux de rôle et littérature en compagnie des membres de l'ordre Siphonique et avec mes chers camarades, parmi lesquels on trouve Ingrid qui va nous parler d'oralité. Mais avant, on écoute.
C'est Léo Henry qui avait eu cette proposition-là dans le cadre des comptes rendus de résidence qu'il faisait en disant « Je propose une définition large de la littérature qui est tout ce qui utilise ou joue avec le langage. » Et le jeu de rôle qui ne fonctionne que sur le langage rentre aussi dans la littérature, quoi.
Je suis tombée sur un article de Camille David qui a en gros posé globalement la question « Pourquoi on peut dire que le jeu de rôle, c'est de la littérature ?» Et ce qu'elle expliquait, c'est que du coup, ça, quelque part, ça renouait en fait avec la vieille tradition orale où il n'y avait plus cette question d'un auteur et des lecteurs qui reçoivent, mais un récit oral qui se construit collectivement, etc. Est-ce que toi, quand tu écris du jeu de rôle, tu te sens en train de renouer avec cette tradition-là ?
Moi, je sais que quand je joue à des jeux, a fortiori à des jeux sans meneur, j'ai cette sensation très forte d'être dans une writing room de scénariste. C'est-à-dire qu'on est en train d'inventer une histoire ensemble, les unes les autres, on a des outils pour ça, et on rebondit les unes et les autres sur les idées. La littérature a quand même ce truc, très souvent, c'est pas systématique, mais très souvent, c'est une pratique un peu solitaire. C'est la personne qui écrit, alors ok, il y a des ateliers d'écriture et tout, mais c'est une personne qui écrit un livre. En jeu de rôle, on se met à 4-5 pour faire une histoire ensemble, et a fortiori sur des jeux sans meneur, en plus, on a cette posture de créatrice collective et il n'y a pas une personne qui a l'histoire et les autres personnes qui vont jouer les héros et les héroïnes de l'histoire. Ça change pas mal de choses sur la façon de faire et sur la façon de raconter. Il y a ce truc de « on crée du récit collectivement, on crée des histoires collectivement ».
La littérature, elle est toujours comprise comme implicitement écrite. Je pense pas me planter en disant que littérature, ça vient de l'être, donc il y a quand même l'idée du caractère, quoi, que tu as écrit, que tu vas pouvoir transmettre. Et on a beaucoup, dans la vie, opposé l'oral et l'écrit dans un rapport qui favorise énormément l'écrit. Parce que l'oral, c'est ce qui est dit, mais ça part, ça disparaît, alors que l'écrit, ça reste, on peut le réimprimer, on peut le transmettre. Il y a un côté très trésor qui se transmet aussi. Je crois que c'est Barthes qui disait globalement que pour lui, la littérature est essentiellement un truc qui naît au 19e siècle. Et pas avant. C'est-à-dire, en fait, il s'agit de dire, à partir du 19e siècle, on commence à penser la littérature comme cette espèce de trésor, de patrimoine. Le racine de père, au sens masculin, dans patrimoine, est très forte, parce que c'est massivement un héritage masculin, en fait, qu'on a gardé, mais qui nous connecte à beaucoup plus anciens. Et notamment, l'article numéro 1 de la littérature, c'est probablement Homère, en fait. Sauf que si on imagine la littérature comme quelque chose qui se construit autour du 19e siècle, il ne s'agit pas tant de dire c'est un trésor que l'on garde depuis des milliers d'années, mais qui est de partir du principe au 19e, commencer à se dire, mais en fait, on va constituer cette histoire ensemble d'une suite de textes que l'on reçoit comme ça. Donc toute cette vision-là de la littérature, elle est vraiment très 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 au profit de l'écrit, parce que c'est l'objet, en fait. C'est plus facile de voir l'œuvre quand c'est un objet physique qu'on peut tenir dans ses mains que quand c'est une performance orale.
Vous avez entendu dans l'ordre Eugénie Bidet, Melville et Kaef.
Alors du coup, elle disait que oui, c'était plus facile de voir l'œuvre quand il y avait un objet. Et moi, je m'y connais pas beaucoup en jeu de rôle. Alors du coup, je voulais vous poser la question de est-ce qu'il y a quand même des traces écrites lorsque vous faites du jeu de rôle ? Et s'il y en a pas, est-ce qu'il n'y a pas un peu la frustration de voir un récit qui se construit et un jeu qui du coup et un jeu qui se construit aussi et qui disparaît après la partie, quoi ?
Oui, c'est frustrant de raconter une histoire que soit on a écrit ou soit qu'on a écrit tous ensemble. C'est frustrant qu'il n'y a aucune trace écrite de ce qu'on a créé ensemble. Pendant les temps de Covid, on restait chez nous, mais on était sur le Discord en train de discuter. J'ai fait ce qu'on appelle un jeu de rôle communautaire, où juste je parlais et je racontais une histoire avec des personnages que j'avais inventés et ceux qui étaient dans le chat avec moi et qui ne parlaient pas, écrivaient ce qu'ils voulaient que les personnages fassent. Ils ont écrit, mais c'est un chat qui défile aussi et qui va disparaître au fil des messages. Mais leurs personnages évoluent, mais ils reviennent surtout tous les mercredis pour voir ces personnages. Et certes, c'est pas écrit, mais c'est gravé dans leur esprit que ces personnages ont évolué, que cette histoire a évolué, et c'est grâce à eux. et sans le dire, sans dire je veux que ce soit écrit, ils l'ont fait de même. Ils voulaient, c'est parce que c'est eux qui voulaient garder une trace écrite de ce qu'ils avaient fait. Du coup, ils ont fait un roman de mes histoires et ils l'ont partagé pour dire j'ai écouté, j'ai participé à cette écriture, je veux la faire connaître à tout le monde sur le Discord. Et bah, du coup, je répondrai toujours oui, on a besoin d'un support pour transmettre tout simplement pour transmettre les histoires qu'on a envie de partager.
Le fait qu'il n'y ait pas d'objets vraiment physiques ni trop d'images, c'est quand même assez rare aujourd'hui dans nos pratiques et dans ce qu'on consomme audiovisuellement. Du coup, est-ce que c'est pas difficile de se concentrer très longtemps pendant des parties très longues, du coup, sans tout ça, quoi, que ça passe essentiellement par l'oralité, quoi.
C'est lorsqu'on commence un jeu de rôle qu'on peut répondre à cette question. On ne voit pas le temps passer. Lorsqu'on parle, on va parler, on va faire des joutes verbales avec les personnages non-joueurs ou entre-joueurs, et on va regarder l'heure, il y aura 4 heures qui s'est passé.
Et ça, alors, c'est les parties qui sont courtes. Hein.
Voilà, c'est 4 heures, c'est une partie. Et en fait, on ne remarque pas que le temps passe, et on a dialogué avec moult personnes. Ça fait partie, en fait... Du jeu de rôle, tout ça.
Après, par Discord, ouais, si j'ai quand même senti que les joueurs ont plus de mal par Discord, oui, parce que sur vocal, etc., la concentration ils ont vraiment moins de trucs, comment dire, justement.
On n'a pas le regard solide de l'autre pour nous accrocher.
C'est ça. Moi, je sais par exemple qu'en tant que MJ, je mime beaucoup de choses, etc., j'utilise des objets de la pièce, etc., donc c'est vrai que bah, ça, il y a un truc accroche-œil, etc., alors que l'autre, avoir un écran devant soi tout à l'heure, il y a aussi quelque chose de physique.
Après, ce qui est bien, c'est les descriptions. Souvent les maîtres du jeu font des longues descriptions des lieux, du caractère du personnage, comment il réagit, comment il te regarde. Il te fait souvent faire des jets de dés dans nos parties de JDR pour accentuer encore ça, pour remarquer si le personnage en face de toi continue de t'écouter ou divague ou est en colère. Et même s'il n'y a pas de support physique, que ce soit une photo ou que ce soit une vidéo, bah on a le meilleur support qui peut exister, qui est gratuit pour tout le monde et à disposition de tout le monde, c'est l'imagination. Et on imagine, en fait, avec la musique, du coup, ou avec les paroles du MJ, on imagine la scène, on imagine où on est, on se place dans l'univers, notre personnage, on fait un avec notre personnage, et on vit la chose. Puis c'est là que le MJ dit qu'on prend une flèche dans le genou. Et là, ça nous... Ouais, y a pas une flèche qui est arrivée sur moi et qui m'a dit je l'ai pas ressenti la flèche, mais c'est mon imagination qui m'a fait travailler et qui m'a juste dit il est en train de se passer ça, donc j'ai pas eu besoin de photos.
C'est là où je voulais intervenir, il y a quand même pas mal de dispositifs qui existent en jeu de rôle, enfin je veux dire il peut y avoir des croisements avec des jeux de plateau qui font qu'on a un plateau, des jetons, etc. Moi j'ai fait des parties sur Roll21 il me semble, où pareil là on dispose d'une carte, etc. Bon, c'est d'un peu plus du point de vue de la stratégie, du placement, etc. On a quand même des représentations des autres personnages.
Oui, il y a toujours graphique. Du matériel, de toute façon.
Tu parlais de la musique également, c'est notre manière de donner un peu de physique à ce qui se passe. Puis je pense qu'on peut parler d'un des cousins éloignés du jeu de rôle, qui est le GN, le jeu Grandeur Nature. Là, pour le coup, tout le monde est en costume, on loue un donjon ou un château pendant un week-end ou une semaine, et là, l'aventure, elle est vécue.
C'est ça. Moi, j'aimerais beaucoup revenir sur tout à l'heure, une question qui est posée tout à l'heure, qui me tique depuis tout à l'heure, sur le fait de est-ce qu'on regrette, parce que je ne suis pas d'accord avec toi, sur le fait qu'on regrette pas qu'il y ait un support écrit ou pas. Parce qu'il n'y a pas de traces en soi. Enfin, il y a des traces, chacun a pris ses petites notes, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de choses officialisées. Après, ça dépend pour qui on fait du jeu de rôle. Parce que personnellement, en fait, quand je fais vivre, quand je fais vivre une aventure à mes joueurs, en fait, je la fais vivre à eux. Et du coup, eux, ils reçoivent l'œuvre. Mais du coup, en fait, avoir une trace écrite, ça veut dire vouloir avoir d'autres lecteurs, d'autres personnes qui lisent cette histoire, qui s'est passée. Alors que moi, en fait, dont je suis le plus fier à chaque fois que je fais une session de jeu de rôle, c'est d'avoir ancré des souvenirs, en fait. Des souvenirs et dans la tête de mes joueurs, je pense que tout ce qui s'est passé, les personnages, etc., tout était clair. En fait, tous leurs souvenirs qu'ils ont à voir, tous les sentiments qu'ils ont eus, toutes les réactions qu'ils ont eues, et les émotions, hein, surtout, parce que c'est faire ressentir soi-même des émotions chez d'autres personnes, je pense que c'est un truc le plus incroyable, vraiment, quand on fait du jeu de rôle. Donc c'est vrai que j'ai pas ce sentiment d'avoir besoin d'une trace écrite, même si les histoires du coup sont géniales, quoi. T'as envie de les raconter, etc. Mais la première personne, en tout cas personnellement, à qui j'essaye de faire vivre la chose, c'est mon joueur. Et donc pendant la session, il a vécu, il a vécu son aventure, et c'est son aventure à lui, quoi.
Ouais, et puis c'est vrai qu'écrire, c'est arrêter une forme, c'est renoncer à d'autres possibilités. Donc c'est un petit peu antinomique avec la pratique du GDR qui paraît censée un petit peu dans la continuité. Enfin, on peut continuer autant qu'on veut, réinventer à l'infini, quoi.
Mmh. Et c'est dans ce cas-là, en fait, ça changerait la forme parce que. Mais c'est ce que je fais, parce que ce qu'on fait avec les Échos de Celdia, du jeu de rôle qu'on fait, qu'on enregistre, et qui là, du coup, est destiné à être écouté. Donc c'est une émission que j'essaie du coup de faire avec un autre groupe de joueurs. C'est que là, je leur dis dès le début, là le but, c'est que vos persos ils soient spectaculaires, que vos persos ils aient de l'éloquence. Pourquoi ? Parce que là le but c'est d'enregistrer du coup cette partie de jeu de rôle et de faire en sorte qu'elle soit écoutable et qu'on prenne du plaisir à l'écouter derrière. Et c'est vraiment, c'est plus du tout le même axe. Celle-là par contre, vu qu'on a tout enregistré, il y a une trace. Mais le cible, à un moment du jeu, quand on joue, on cible des spectateurs, des personnes qui vont écouter du coup la partie. Donc c'est vrai que du coup c'est pas du tout le même style. Donc par exemple les joueurs que je fais, c'est vrai que les parties que je fais du coup pour les joueurs, celle-là j'ai pas vraiment de regret de pas avoir de trace écrite.
Après ça reste audio du coup.
Oui ça reste audio. Mais du coup il y a une trace quand même, oui. C'est quand même un objet.
Tu veux dire que l'audio c'est moins bien que l'écrit, Ingrid ?
Non pas du tout. Pas du tout, surtout pas moi, je dirais pas un truc comme ça. Mais aussi je voulais vous demander personnellement, vous, est-ce que vous êtes déjà habitué des formes orales ? Par exemple, est-ce que vous faites déjà du théâtre ? Est-ce que vous faisiez déjà du théâtre ou du chant ou ce genre de pratique ou
au contraire, est-ce que ça vous a conduit à pratiquer ces choses-là via le GDR ?
C'est tout à fait ça. Je ne faisais pas du tout de théâtre, pas du tout de chant. Et j'avais pas du tout la tête à faire du jeu de rôle non plus au début. Et lorsque j'ai intégré l'association, on m'a dit « Hey, tu veux faire du jeu de rôle ?» Et qu'on pouvait faire plein de choses dedans. C'est moi-même qui me suis dit « Faut que je m'améliore en éloquence, faut que je m'améliore pour faire des scènes spectaculaires, pour épater les joueurs ou épater le MJ ou du coup les personnages fictifs à l'intérieur. » Et du coup, j'ai amélioré en fait des choses que je n'avais pas. Donc forcément, j'ai appris que lorsque j'ai commencé le jeu de rôle, et pareil pour les enfants, l'objectif c'est de leur faire, même s'ils n'ont pas fait de théâtre, eux, leur faire améliorer ces capacités qu'on acquiert avec le théâtre et le chant.
Personnellement, j'avais fait un peu de théâtre avant, mais en fait ce par quoi j'ai commencé, alors ça va remonter à de longtemps, mais c'est que j'ai commencé à faire du jeu de rôle alors que je ne savais pas que c'était des jeux de rôle. C'est-à-dire que dès que j'étais tout petit avec mon frère, on s'était mis à prendre du papier crayon, on reprenait des personnages de Mario, je crois. Et on faisait comme si notre liste était un vaisseau spatial, on refaisait Mario Galaxy, quoi. Et vraiment, là-dessus, on a directement commencé à faire les voix des personnages, etc. Faire semblant qu'on avait d'autres voix, etc. On a fait de l'imitation tout le temps, on a essayé de refaire tous les voix de nos films, etc. qu'on adorait. Donc à partir de là, c'est vrai que dès que je suis arrivé à une première partie de jeu de rôle, d'ailleurs j'ai commencé en tant que MJ, j'ai presque fait que du maître du jeu, il y avait déjà un background derrière, quoi.
C'est exactement ce que racontait Melville dans l'interview qu'on a écouté la semaine passée. C'est cette phrase qui m'est restée, qui explique un petit peu son parcours et qui disait cette phrase de mais tout commence avec on dirait qu'on serait,
ouais.
Et à partir de là la cour est grande ouverte. Et d'ailleurs je crois qu'on a un dernier truc à écouter. Je crois que c'est uniquement KF qu'on va écouter, parce que KF vraiment avait trop de choses à dire.
Et le troisième axe, après avoir parlé de théorie littéraire et de game studies, le troisième axe qui permet aussi de légitimer le jeu de rôle aujourd'hui, c'est le rapport à la performance artistique, qui est une forme d'art dont on peut imaginer qu'elle a existé depuis toujours. La danse, la représentation théâtrale, musicale, c'est de la performance. Enfin, la performance artistique, en particulier dans l'art contemporain, elle a vraiment pris son essor au XXe. Et elle donne tout un vocabulaire qui est hyper utile pour comprendre ce qui se passe dans les parties de jeu de rôle. Avec Eugénie, on a aussi écrit plusieurs articles sur le jeu en performance, qui est le nom qu'on donne à cette façon, à certaines façons de jouer qui nous plaisent. Et on s'est rendu compte que le vocabulaire pour parler de performance artistique, il est hyper utile pour parler de jeu de rôle. notamment cette idée que l'œuvre d'art, c'est la performance en elle-même, c'est le moment, il est éphémère, il passe, il n'est pas reproductible. On peut rejouer au jeu, mais on ne peut pas reproduire le même moment exact. Et il peut rester des traces, on peut se souvenir de la partie, on peut avoir écrit un compte-rendu, on peut même avoir enregistré, tout ça c'est des traces, mais c'est pas le moment en lui-même. Et ça c'était un peu le dernier outil dont on avait besoin pour se dire, quand on essaie de penser le jeu de rôle sous la forme artistique, la plupart des gens, le premier réflexe c'est plutôt de penser, ah oui, on va produire des œuvres d'art qui sont les jeux en eux-mêmes, ça c'est des livres, tu peux les designer, les fabriquer, les écrire, ça ressemble à des œuvres d'art. Il y en a qui sont assez orientés là-dessus. Et le deuxième réflexe, c'est parfois se dire, ah, on va ensemble créer de la fiction, c'est-à-dire qu'on raconte on joue une partie, ça fait une histoire, et bah derrière, il y a des gens qui vont écrire leur histoire, écrire leur fiction, et essayer de s'en faire une œuvre en soi. Et à mon avis, c'est une conception dans laquelle on réattribue une valeur artistique à ce qu'on a fait parce que ça va pouvoir passer à l'écrit, ça va pouvoir passer à la postérité, ça revient à l'objet. Et moi, entre l'objet livre d'avant et l'objet fiction qu'on a créé, entre les deux, il y a un truc important, en fait, qui est même le plus important, en fait, dans le jeu de rôle, c'est quand même la partie. On peut faire du jeu de rôle sans avoir le livre avant, sans écrire l'histoire avant, après, mais on peut pas faire du jeu de rôle sans faire du jeu de rôle. L'envie de se recentrer là-dessus, elle est assez évidente. Hein. En fait, le fait de pouvoir parler de la performance comme une forme d'art est assez central pour ça.
Oui, donc par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a le mot émotion qui m'a beaucoup plu. Et effectivement, j'ai envie de dire, le jeu de rôle, en quoi est-il facteur d'émotion? Alors par rapport à ce qu'on vient d'entendre, la relation entre performance et jeu de rôle, j'ai bien noté trois choses pour une performance artistique réussie, à savoir la vibration commune, l'engagement et l'exigence de jeu. Et bon, donc voilà, la performance esthétique prend son essor au 19e siècle, aide à comprendre ce qui se passe dans le jeu de rôle. Et j'ai bien noté aussi que c'est une œuvre d'art unique à chaque fois. Le jeu de rôle peut prendre une forme artistique. Alors pour ma part, je ne connaissais pas vraiment le jeu de rôle, j'avoue. Mais je connais la performance en art contemporain et le happening notamment. Et mon point de départ dans notre échange, c'est l'art peut être une performance. Et donc, on peut amener la performance dans toutes les sphères de l'art, donc le théâtre, le cinéma, le jeu de rôle. Donc, ma première question, en fait, c'est qu'est-ce qui vous plaît dans cette mise en scène? On parle d'émotion, dans cette volonté de performer des séances de jeu.
Bah, c'est ça, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est la création d'émotions. Mm-hmm. Et ça, je trouve ça incroyable. Il y a à peine 2 jours, j'ai fait une session de jeu de rôle. À la fin de ma session, j'ai un de mes joueurs qui a pleuré, quoi. Mmh. Parce que il jouait un personnage qui jouait depuis 3 ans, etc. À qui il a fait vivre plein d'aventures, qu'il l'a développé, etc. Au fil de ses aventures, il a développé sa psyché, etc. Et ce personnage, ça arrive, il meurt de façon émouvante, etc. Et derrière, du coup, ça crée une forte émotion à l'intérieur. Et c'est vraiment ces premières fois, je pense, les premières fois où j'ai ressenti les émotions de mes joueurs, je me suis dit. C'est de l'art, quoi. C'est juste arriver à ce qu'une œuvre, une performance, arrive à atteindre une personne au point de la faire pleurer, hein, vraiment. C'est juste incroyable. C'est vraiment un sentiment qui est, je pense, incroyable.
C'est ce qu'on veut, en fait. C'est dans l'art, je pense. C'est exactement ça. C'est transmettre des émotions. Mmh. Et quand on fait du JDR, que ce soit MJ ou joueur, l'émotion pendant la partie, comme elle disait, c'est cet instant-là qui sera gravé à tout jamais dans notre esprit. Et c'est encore mieux de la vision du MJ et du joueur lorsque tout le monde est impacté, et ça crée encore une scène qui est saisissante pour les joueurs et pour le maître du jeu. Le maître du jeu est satisfait d'avoir créé toute cette atmosphère d'émotions, que ce soit la peur, que ce soit la tristesse, que ce soit l'euphorie. On est satisfait après 9 heures de GDR, voire 24 heures, que j'ai vécu un moment unique alors que je suis resté assis sur ma chaise. Mmh. et j'avais juste un papier et un crayon devant moi.
Et ça coûte moins cher que l'opéra.
Exactement.
Vous avez clair. L'imaginaire, et ça l'imaginaire c'est illimité, et c'est quelque chose qui vous soude en plus. J'imagine que quand vous voyez à l'extérieur, cette cohésion ou cette atmosphère, cet imaginaire, cette vibration que vous avez fait naître, suscité entre vous, elle peut de nouveau émerger, même si vous voyez à l'extérieur, dehors d'un plateau, d'un JDR, quoi. C'est ça, il y a aussi quelque chose qui vous soude.
Bah on en reparle directement après la partie. Bah...
Ce qui me fait plus plaisir aussi.
Ça. On en reparle, on fait « Ah mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire ?» Pour tout ça, où on a tout fait.
Pour tout ça.
J'étais dans cette partie de JDR où c'est un ami qui adorait son personnage et lui poser la question vraiment en tant que joueur, lui faire « Est-ce que c'est le moment ?» Est-ce que tu veux vraiment partir comme ça ? Et qui te répond sincèrement avec les larmes aux yeux, oui, j'ai assez vécu. Je transmets ce que j'ai et je vous souhaite bonne chance. Et même s'il revient plus tard avec un autre personnage, il ne le saura pas. Et il a créé quelque chose et il va reconstruire quelque chose derrière encore.
C'est ça
qui donne envie du coup de refaire du jeu de rôle en permanence, c'est infini en fait.
Et je peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec, je sais pas, ça me fait penser à un texte par exemple de Baudelaire, une poésie où on pourrait traiter de la thématique de la mort et ce qu'on pourrait ressentir chacun quand on lit ce poème. Et pourtant ce poème, eh bien on peut tous être amenés à mourir et on le revit et on le relit et on est toujours là et on a vécu quelque chose d'unique et en même temps d'une cohérence de groupe, puisque ce livre peut se trouver au CDI en bibliothèque ou en librairie, quoi. C'est de toucher, être touché à un moment donné sur un temps suspendu qui n'appartient qu'à soi et qu'en même temps qui est collectif et universel, quoi. Et je rejoins ce que vous dites et je comprends votre perception. Merci pour cette confidence. Est-ce que tous les jeux de rôle peuvent être performés? Est-ce qu'il existe une performance à chaque séance ou là encore, il y a quelque chose qui est du domaine de l'impalpable, de l'invisible ou de l'imprévisible?
Je trouve que oui. Je trouve que oui, que chaque... Ça dépend bien sûr des joueurs et du MJ à chaque fois, mais tout peut être interprété comme une performance. Hein. Même une bagarre dans un bar peut décaler à un moment d'émotion intense et souvent on n'en parle pas assez et c'est la chose que les gens n'arrivent pas à comprendre forcément, c'est la part d'aléatoire qu'il y a dans le jeu de rôle, c'est-à-dire lancer des dés ou tirer une carte, c'est la part d'aléatoire qui fait que la situation se produise. Si on lance le dé et que tout réussit ou qu'il y a un échec, au début, quand on est débutant, ça crée une frustration de rater. Mais c'est en ratant qu'on crée aussi des choses. C'est souvent Alexandre, dans mes premiers parties de JDR, me disait, tu sais, c'est frustrant de rater parce que tu ne voulais pas ça. Tu te dis, c'est l'aléatoire qui m'a fait faire ça, je voulais pas. Mais si tu réagis de la façon où ok, ton personnage a raté, mais il a appris des choses, il a appris avec ses erreurs, et plus tard, ces jets de dés vont transformer ton personnage en quelque chose d'autre, et t'auras vécu, même avec cette part d'aléatoire que tu vas détester hein, toute ta vie, t'auras créé un personnage avec de réelles émotions.
Et puis sinon tu parles, c'est un échec dans l'action... Du personnage et pas un échec du point de vue du joueur. Moi j'avais juste envie de rebondir là-dessus pour cette autre aléatoire qu'on peut avoir au niveau du metagame, qui est que est-ce que ça va bien se passer entre les participants, est-ce qu'il y en a un qui est toujours en retard, qui doit toujours partir une heure avant, est-ce que le feeling est là? Enfin, moi je me rappelle de parties où clairement j'étais en train d'avoir mes dents de sagesse qui poussaient et du coup l'investissement on va dire dans la performance artistique c'était pas ça, j'étais vraiment plus le joueur qui répond que le personnage qui vit des aventures. Et c'est vrai que ça existe aussi, mais c'est pas forcément très grave.
C'est ça.
Ça, c'est toute notre performance en tant que maître du jeu, qui relève sûrement un peu de psychologie, de sociologie, etc. C'est de comprendre ses joueurs, en fait. Moi, je sais que, du coup, par exemple, comme je disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse le plus, c'est de créer de l'émotion. Mais pour créer de l'émotion chez la personne en face, il faut savoir ce qui va créer de l'émotion, parce que tout le monde est différent, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette part qui vient sûrement avec la technique et l'expérience de comprendre les types de joueurs, parce qu'il y a vraiment des archétypes dans les joueurs, et de comprendre les personnes en face, et surtout de réussir à leur donner ce qui va créer de l'émotion chez eux, en fonction de ce qu'on veut provoquer. Donc, si on veut juste provoquer le fait qu'ils s'amusent, effectivement, on peut leur donner ce qu'ils veulent, en fait. Et chacun leur donner un moment de gloire en fonction de ce qu'ils ont créé, etc. Il y a vraiment tout ce côté, donc effectivement, hein, du metagame, comme on dit, hein, donc, de ce qu'il y a en dehors de l'aventure, hein, donc en fonction des gens qui arrivent en retard, etc. Donc, connaître ces joueurs, c'est vraiment un élément fondamental pour pouvoir vraiment leur faire vivre les meilleures aventures possibles, ça c'est clair. Il y a une alchimie de groupe aussi, comprendre l'alchimie de groupe, parce qu'en fonction des différentes personnes, elles vont plus ou moins coopérer entre elles, etc. Et en fait, ce groupe se crée vraiment une vraie identité, et donc savoir répondre aux attentes de ce groupe, c'est aussi un vrai challenge pour les, ouais, pour les maîtres
si
du jeu.
Xavier et Mylène ont rompu la semaine dernière, c'est sûr, la partie va le sentir. Bah moi, je vous propose une nouvelle pause musicale, ce qui n'est pas sur Xavier et Mylène qui ont rompu la semaine dernière, mais qui est la complainte de la serveuse du Naël Band.
Je suis accorde, demoiselle, un mollet souple, un sourire éclatant. On peut me parler bagatelle sans que je m'échappe en hurlant. Mes cheveux d'or et mes grands yeux ont tout pour charmer le manant, et mon miroir me répond quand il veut, tu es la reine de Séan. Alors, pourquoi ne suis-je pas princesse, couverte d'or et de bijoux? Pourquoi ne suis-je pas duchesse, avec des sujets à genoux? Mais voilà qui je suis en vérité, simple serveuse à l'auberge du donjon. Aucun tourment ne m'est épargné au milieu de tous ces pochetrons. Des nains ivrognes, de piètres aventuriers, voilà tout mon lot quotidien. Leur cœur videur veille à ma sécurité, mais il lorgne surtout son verre de vin. Alors, pourquoi ne suis-je pas princesse, avec mille paladins à mes pieds, ou même baronne ou comtesse, tant qu'on m'admire comme il me sied.
Vous êtes sur Radio Syllabe, vous écoutez la fin de cette émission J'ai craché sur vos ondes, / J'ai craché sur vos dés. On était avec Sam et Alexandre de l'Ordre Symphonique. Si vous voulez nous dire une dernière fois... qu'est-ce que c'est votre asso? Où on peut vous retrouver? Et ce que vous faites? Allez-y, c'est à vous.
Bah écoutez, nous, on est, nous sommes domiciliés à Rennes 2, juste à côté de Syllabe, en R205. Pour l'instant, notre local est fermé. Mais lorsque tout sera terminé, on sera ici. Et aussi, on est au foyer la plupart du temps avec tous nos membres. Et nous avons des réseaux sociaux, du coup l'Ordre Symphonique sur Facebook, Instagram, Twitter. Et nous avons un Discord avec nos adhérents qui partagent du coup plusieurs activités tous ensemble. Donc si vous voulez adhérer, vous pouvez nous contacter sur ces différents réseaux sociaux.
Et vous faites des ateliers avec des enfants aussi, vous disiez tout à l'heure.
Oh oui, du coup, ça fait depuis maintenant, je pense, 6 mois. On a un groupe de filles et un groupe mixte qui nous connaissent maintenant très bien. Et on leur fait vivre des aventures. Et c'est encore plus satisfaisant quand votre groupe d'enfants, qui au début ne connaissaient rien au jeu de rôle, vous attendent devant le portail et vous dites à chaque fois... J'ai mangé en 2 minutes, je n'ai pas encore mâché ma nourriture. Commençons, nous n'avons pas le temps. Voilà, on a 1 heure, c'est très court. Et ils veulent commencer, ils veulent du temps en plus pour pouvoir vivre leur aventure, en fait.
Ouais. Et donc, s'il y a des gens là-bas qui voudraient faire d'autres ateliers, que ce soit en école, en médiathèque, MJC, que sais-je, on peut aussi me contacter, c'est bon?
Oui, on peut nous contacter pour ce genre d'activité. Et on vous trouvera des MJ et des aides de jeu. Qui seront encore plus heureux de partager leur passion.
Trop bien. Bah, je remercie encore d'être venu, d'avoir partagé tout ça avec nous. D'accord. Je remercie également Jenny Binet, KF, Melville pour leurs paroles. Et allez découvrir leurs œuvres, que ce soit en écoutant notre dernière émission ou en allant directement sur le site de Dystopia. Vous y trouverez plein de chouettes choses. Et puis, merci à ma super équipe qui est avec moi là ce soir.
À bientôt. Enfin,
merci à toi, Cesse, aussi.
Ouais, merci.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Ciao, bonsoir. Ciao.